Décryptage. Sébastien Farcy.
La Pologne aux Polonais, la Roumanie aux Roumains et au Portugal, on dégage les élites. Dans ces trois pays, en une seule journée de dimanche dernier, ces messages ont connu un succès foudroyant auprès des électeurs et l'extrême droite a connu une percée historique. Des petits partis qui n'existaient pas il y a 6 ans sont devenus des faiseurs de rois, comme en Pologne, où l'on vote pour un second tour dans 10 jours, ou s'élèvent en principal parti d'opposition, comme au Portugal. Rejet de l'immigration, peur de la guerre en Ukraine ou contre-coup de la crise économique, les causes de cette poussée de l'extrême droite sont multiples, mais une chose est sûre, l'Europe, plus que jamais, se renferme sur elle-même. Nous essayons de mieux comprendre pourquoi ce soir, dans Décryptage. Et pour nous éclairer sur ce sujet, j'accueille en studio Patrick Martin-Jeunier. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes spécialiste des questions européennes et internationales à Sciences Po Paris, auteur de l'ouvrage « L'Europe a-t-elle un avenir ?» aux éditions Studirama. Mais avant de venir vers vous, je me tourne vers les principaux intéressés, les électeurs polonais, ceux qui voteront pour le deuxième tour des législatives le 1er juin prochain. Nous sommes ici à un meeting électoral du parti Konfederalnica, une formation d'extrême droite en pleine ascension, une réunion qu'a suivi notre correspondant Adrien Sarla.
Il fait partie de ces hommes politiques qui savent soigner leurs apparitions. Émergeant d'un nuage de fumée rouge et blanche, Sławomir Mentzen salue les centaines de Varsoviens massés sur la place de la Cour suprême polonaise. Au milieu de la foule, Christian est déjà conquis par le candidat au discours nationaliste, anti-immigration et europhobe.
En tant que citoyen, je veux pouvoir rouler dans la voiture que je veux. Je veux pouvoir porter une arme à ma ceinture et je ne veux pas qu'un quelconque politique essaie de m'en empêcher.
C'est avant tout le côté libertarien du candidat qui a su convaincre le jeune étudiant en marketing. Agata, elle, ne sait pas encore pour qui elle va voter, mais elle est déjà convaincue par le personnage.
C'est le candidat le plus puissant en termes de caractère. Il est sûr de lui et de ce qu'il dit. Et si les jeunes veulent quelque chose de nouveau, ils vont vouloir quelqu'un qui a un fort caractère et qui n'a pas peur de s'affirmer.
Donc Patrick Martin-Jeunier, on commence donc par la Pologne. Le deuxième tour a lieu dans 10 jours, hein, le 1er juin. Une formation d'extrême droite qu'on entend, Konfederalnica, arrivée en troisième derrière les centristes, les conservateurs. Ce parti, il est né il y a 7 ans seulement et maintenant il obtient 14% des voix. En tout, les différentes formations nationalistes et populistes ont raflé plus de la moitié des sièges au Parlement. Est-ce que ce score vous étonne ?
Écoutez, moi, ça ne m'étonne pas beaucoup. Ça me choque, parce que moi, j'ai connu la Pologne le lendemain de la chute du communisme, lorsqu'elle a demandé l'aide de l'Union européenne. Personnellement, j'ai demandé au conseiller européen de Jacques Chirac d'accélérer l'adhésion de la Pologne à l'Union européenne, enfin à la communauté européenne. Pourquoi ? Parce que c'était très important. Il se libérait du joug communiste. C'est un pays qui avait besoin d'être aidé sur le plan agricole, sur le plan économique, sur le plan de la gouvernance. Et aujourd'hui, je suis choqué parce que je vois des personnes qui sont manipulées par les réseaux sociaux, TikTok par exemple, qui sont influencés notamment par la Russie ou la Chine, des jeunes en général qui n'ont absolument aucune culture politique, qui ne se souviennent pas de ce qu'a été le joug communiste en Pologne, qui oublient tout ce que l'Union européenne a fait pour la Pologne. J'y suis allé à 2 reprises, 10 ans après l'adhésion, et j'ai vu que ce pays, grâce à l'Union européenne, s'en était sorti, était devenu une grande puissance, un grand pays avec des moyens. Et ça, ces jeunes qui sont aujourd'hui manipulés, l'oublient. Ils sont manipulés par des partis nationalistes, populistes, d'extrême droite, qui véhiculent de surcroît des idées qui sont contraires aux valeurs de l'Union européenne, on va en reparler, alors que la Pologne est un pays économiquement qui est en bonne santé.
Comment vous l'expliquez en fait, leur vote, qui est quand même assez important, il y a la manipulation certes, est-ce qu'il y a des raisons derrière ?
Oui, je pense que, en fait, il y a une volonté de dégagisme, parce que c'est un pays qui a été alternativement gouverné par, on va dire, les centristes, la plateforme civique, puis par le PiS. N'oublions pas que le parti droit et justice, le PiS des frères Kaczynski, avec le dernier premier ministre Morawiecki, a ancré la Pologne dans une atmosphère très conservatrice. Et c'est un pays qui s'est inscrit en faux contre toutes les valeurs de l'Union européenne. Mais ce qui est inquiétant, c'est que ce parti d'extrême droite va encore plus à droite. Et en réalité, on s'appelle s'aperçoit que la droite classique est dépassée et par l'extrême droite, est débordée par l'extrême droite. Et on voit bien que le candidat de l'extrême droite aujourd'hui est en train de dire « c'est moi, je suis un faiseur de roi, donc il faut que vous adhériez à mes idées pour élire le prochain président ».
Allons en Roumanie, voisine maintenant, l'extrême droite, elle, fait encore mieux, si on peut dire, dimanche dernier. Le candidat nationaliste George Simion, proche de la Russie, a obtenu 46% des voix au second tour après une course en tête au premier tour. Il en a fallu de peu pour qu'il arrive au pouvoir. Cette fois, pour comprendre ce vote, on parle de dégagisme aussi des élites, vous le disiez, tout de même aussi d'une ingérence russe, entre autres. Comment est-ce qu'on peut analyser donc ce vote, cette montée de l'extrême droite là-bas ?
Alors, il y a des causes communes par rapport à la Pologne et à d'autres pays. Il y a effectivement l'influence russe. On sait que le premier tour de l'élection présidentielle avait été invalidé par la Cour constitutionnelle.
Sur des bases solides.
Oui, sur des bases absolument solides, à savoir une influence extérieure russe incontestable, mais aussi l'irrégularité du compte de campagne du principal candidat d'extrême droite qui l'a empêché de se représenter. C'est incontestable, qui montre bien, et c'est ce qui est encourageant, que la Roumanie est un état de droit. Mais il y a aussi des particularités à ce pays qui est un des plus pauvres de l'Union européenne. Il faut savoir que c'est pratiquement un tiers des citoyens qui sont au niveau du seuil de pauvreté. Le SMIC est très bas. Les agriculteurs sont très angoissés. Il y a l'inflation, le chômage. Et donc tout ça contribue, avec ces facteurs économiques en Roumanie, effectivement, à entretenir l'extrême droite. Donc il y a des particularités économiques particulières en Roumanie qui explique de surcroît avec cette manipulation sur les réseaux sociaux et l'ingérence russe que l'extrême droite ait pu faire un tel score.
Donc on va finir ce tour rapide des derniers scrutins. Le Portugal, on passe cette fois de l'autre côté à l'ouest de l'Europe avec un score aussi impressionnant. La formation d'extrême droite Chega, une formation, ce qui veut dire assez, donc ça résume bien son programme, a été créée il y a seulement 6 ans. Elle devient aujourd'hui le principal parti d'opposition avec un quart des sièges au Parlement à égalité avec le Parti Socialiste. C'est pas rien. Il s'agit ici, dans son programme, si on peut le lire, d'un vrai conservatisme puritain, raciste, anti-immigration, très libéral économiquement. Un programme qui veut aussi privatiser la santé, l'éducation. Un vrai Trump à la sauce portugaise, si on peut dire.
On peut dire ça, de la même façon qu'il y a du trumpisme à la mode espagnole avec Vox. En France, c'est un peu différent. Mais oui, le parti Chega est aussi un parti dégagiste qui est carrément raciste et donc contre l'immigration. Et c'est un pays qui fait peur également, qui dit que c'est un pays qui peut être submergé par une vague d'immigration. Mais aussi, une particularité au Portugal, c'est aussi, ils vont surfer sur la vague de la corruption. Ça fait depuis 2 ans que les gouvernements successifs chutent sur des problèmes de probité, de corruption. Et donc, bien évidemment que ça ne marche plus non plus. On parlait de la Roumanie, on parle du Portugal. Mais oui, ici, ils surfent sur cette vague de corruption qui fait que les partis politiques traditionnels ne sont plus crédibles. Et au final, les électeurs, notamment des jeunes, se disent, après tout, eh bien, nous n'avons jamais voté pour un parti d'extrême droite. Ils ne sont jamais allés au gouvernement. Ils ne sont pas corrompus. Et donc, on va voter pour eux. Mais c'est quand même très très choquant lorsque l'on sait que ce parti d'extrême droite, c'est la première fois qu'il atteint ce score depuis la chute du salarisme en 1974.
Et qui reprend d'ailleurs les mêmes slogans.
Qui reprend absolument les mêmes slogans. Ce sont des partis, alors on va dire néo-salaristes, pour moi c'est néo-fasciste, même chose que l'extrême droite en Espagne. Ce qui est quand même très inquiétant pour des jeunes qui n'ont pas du tout la culture de leur pays. Le Portugal et l'Espagne sont entrés dans l'Union européenne après la chute des dictatures. Et donc ce sont des régimes très démocratiques. Et là, on voit que finalement, on veut tout rayer et ramener des partis néofascistes au pouvoir, quitte à surfer sur les thèmes les plus racistes, les plus conservateurs.
Chaque génération vit avec son temps. Le salarisme, c'est loin pour eux, bien sûr, comme la Deuxième Guerre mondiale, c'est loin pour nous. Le nazisme est loin en Allemagne. Donc tout ce qui est... On peut essayer maintenant de trouver des points communs. On entend l'immigration, beaucoup. Problème d'immigration, problème économique, et puis, bien sûr, les ingérences, la manipulation, la confusion créée par les manipulations, la désinformation russe. Donc, est-ce qu'on peut essayer de résumer, voir ce qui est en commun et ce qui alimente ce discours d'extrême droite.
Le principal point incontestablement, c'est l'immigration. Hein. On pense que nous vivons une vague d'immigration avec des slogans racistes, parce qu'on peut dire qu'on est pour le contrôle de l'immigration, mais là, c'est carrément des slogans racistes, anti-migrants. Et donc, cette peur d'être submergé par une immigration massive, on fait valoir que l'Europe ne contrôle pas les frontières, alors que l'immigration illégale s'est réduite hein, au premier semestre de 2025. Donc, cette peur irrationnelle de l'immigration qui est exploitée. Donc, premièrement, les difficultés économiques, on l'a dit, oui, les jeunes ont des difficultés à trouver de l'emploi. Le salaire minimum n'est pas coordonné en Europe. Beaucoup de jeunes portugais, de jeunes espagnols, des grecs également, s'en vont pour essayer de trouver un pouvoir d'achat meilleur. L'influence d'autres parties, l'ingérence extérieure. Et enfin, j'ajouterai quand même, depuis 2 ans et l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, ce discours néoconservateur, réactionnaire américain. Rappelez-vous le discours du vice-président Jude Vance à Munich, où il a
donc
dit...
Ça fait deux, trois mois, là.
Moi qui étais en Allemagne au moment des élections législatives, eh bien, qui a eu une influence très importante. Regardez le score de l'extrême droite allemande, Mme Weidel, de l'AfD, plus de 20% des suffrages au Bundestag.
Et d'ailleurs, on entend que le CPAC, enfin, le CPAC, enfin la grosse machine conservatrice américaine, va organiser un meeting en Pologne la semaine prochaine.
Voilà.
Une forme d'ingérence ?
Ah, carrément, oui. Je veux dire, il y a une ingérence russe en Roumanie, il y a une ingérence américaine en Pologne, de même qu'il y a une ingérence américaine en Allemagne. Oui. C'est quand même le vice-président qui a accusé les dirigeants allemands d'empêcher la libre expression, la libre opinion, et d'enfermer même des dirigeants. Ils ont même accusé la Commission européenne d'avoir annulé les élections en Roumanie. Oui, il y a des ingérences des grandes puissances, manifestement, en Europe. Qu'on laisse vivre l'Europe. L'Europe est un pays, un espace démocratique. Et donc, les électeurs sont capables de se faire une idée pour qui voter. Il y a des ingérences. Et ça, il faut éviter toute ingérence parce que, en réalité, les Américains ne connaissent pas l'Europe, la culture politique européenne, de la même façon que les Russes font des ingérences uniquement pour renforcer, évidemment, leur pouvoir en Europe et tenter de pouvoir avoir des pays à leur solde.
Comment est-ce que, justement, on peut définir le programme d'une formation d'expérience extrême droite telle qu'on les voit. Comment elles se rassemblent ? Leur radicalité ? Est-ce que nous sommes encore dans des formations qui, par leur programme, leur méthode, respectent les principes fondamentaux de l'état de droit tels qu'ils sont formulés dans l'Union européenne ?
Ah non, ce sont des partis politiques incontestablement, en toute objectivité, qui sont contre les valeurs de l'Union européenne, qui sont, non seulement sont contre, mais agissent, une fois qu'ils sont au pouvoir, contre. Vous voulez des exemples précis ? Eh bien, l'avortement. On voit bien que s'agissant de l'avortement, même si ce n'est pas une compétence de l'Union européenne, mais c'est tout de même protégé par la Cour européenne des droits de l'homme, eh bien, on ne veut plus l'avortement libre en Pologne. On ne le voulait plus, en tout cas, jusqu'à ce que le PiS quitte le pouvoir. On voit bien que Viktor Orban lui-même, alors c'est le premier point, l'avortement. Le second point, c'est l'immigration illégale. Et le troisième point, ce sont des attaques très graves contre la diversité, les différentes communautés, notamment la communauté LGBT qui souffre des discriminations et des projets de loi qui sont pris par ces partis. En Pologne, en Hongrie, par exemple, le Premier ministre hongrois Viktor Orban, quoi qu'on pense du sujet de la question, veut interdire la participation à la Gay Pride, la fête des fiertés en Hongrie. Et Madame Meloni, qui est quand même Fratelli d'Italia, parti d'extrême droite, et pas uniquement populiste, c'est un parti d'extrême droite, a refusé de reconnaître les enfants issus de couples homosexuels, de GPA notamment. Donc, on s'inscrit en faux contre les valeurs de l'Union européenne. Ce que on ne se doute pas à propos de ces partis politiques, c'est qu'ils ont un discours un peu lisse avant d'arriver au pouvoir. Et quand ils arrivent au pouvoir, ils mettent en œuvre toutes leurs idées réactionnaires. Voilà. Et ça, et enfin, deux autres points fondamentaux qui unissent tous ces partis, c'est l'atteinte à l'indépendance de la justice. Ou bien aujourd'hui qu'il y a un discours très grave en disant que les juges viennent s'interposer entre les politiques et le peuple. Donc, on n'a pas à les écouter. Et ça, c'est très trumpiste également. Regardez les juges en Italie qui s'opposent à la déportation des étrangers en Albanie. Regardez en Pologne, lorsque les juges ont été nommés par le pouvoir politique. Eh bien, ce sont des partis et des pays qui ont été mis sous contrôle de la Commission européenne avec des procédures d'infraction. Donc, et enfin, dernier élément très important pour vous, c'est l'atteinte à la liberté de la presse. On voit aujourd'hui que Viktor Orban, Premier ministre hongrois, a décidé peut-être de fermer, si tant est qu'il en ait encore, des médias qui recevraient des subsides étrangers.
Et pourtant, on voit ces formations populistes qui cessent de monter. Elles occupent, selon l'Institut Jacques Delors, un tiers des sièges dans les parlements nationaux, Patrick Martin-Genier. En France, le Rassemblement national est le premier parti de l'Assemblée en termes de sièges. On ne peut pas dire que ce n'est pas un parti d'extrême droite. Ceci semble montrer une vraie défiance des Européens, en tout cas dans leur vote, envers les institutions et les partis traditionnels. Est-ce que nous sommes face à une crise de la démocratie représentative en Europe ?
Oui, je crois qu'on peut dire qu'il y a cela, une méfiance. Pour moi qui suis un Européen convaincu, je peux le dire. Je sens que des reproches sont faits aux institutions européennes. Peut-être trop de technocratie, trop de bureaucratie, un langage qui est très difficile à comprendre. Quand vous allez à Bruxelles, il y a toute une série de sigles, etc.
Oui, ça c'est les institutions de l'Union européenne, oui. mais chacun vote... Oui. Contre l'Union européenne ou contre... c'est les politiques nationales aussi qui sont
oui,
rejetées.
Mais vous savez, quand on vote au Parlement européen, on vote contre les politiques nationales et l'inverse est vrai également.
Donc c'est un bouc émissaire, on sert aussi à créer des boucs émissaires.
Même quand on est dans une élection nationale, on dit tous décident à Bruxelles, regardez, c'est de la faute à Bruxelles, tout ce qui ne va pas, c'est à cause d'eux. Et alors qu'il y a une véritable crise de gouvernance dans nos différents pays, je pense qu'en France aussi, on a une vraie crise de gouvernance purement nationale. Voilà. L'Europe est un bouc émissaire, mais je crois que nous vivons des crises de la représentation démocratique. Effectivement, lorsque vous regardez, vous citiez la France, mais en Allemagne, que je connais bien, l'AfD, le parti d'extrême droite, où il y a quand même des néo-nazis, c'est plus de 152 députés au Bundestag. C'est un parti qui a été mis sous la surveillance de l'Office fédéral de protection de la Constitution. Oui. Donc pourquoi ? Parce que ce sont des partis politiques qui veulent instaurer une sorte d'ordre réactionnaire une fois arrivés au pouvoir.
Donc il y a aussi des blocages démocratiques qui sont possibles. Justement, Patrick Martin-Genier, vous êtes politologue, quel remède à ce mal, docteur? Que diriez-vous à des partis aux valeurs démocratiques pour regagner la confiance des électeurs ou se protéger contre la montée de ces partis autoritaires?
Moi, je pense qu'il faut que les responsables politiques apprennent à parler au peuple de façon plus modeste. Moi, j'ai connu des responsables politiques qui pouvaient se promener dans la rue sans être insultés. J'ai bien connu Michel Rocard, Raymond Barre aussi, des grandes personnalités politiques qui savaient dire la vérité et qui savaient dire les choses au peuple, aux électeurs. Et donc, ça, c'était très important. La vérité, ça me semble tout important. Par ailleurs, il faut aussi prendre en considération des choses qui n'existaient pas avant. Oui, il y a un vrai problème sur l'immigration dans tous nos pays. Je crois qu'il ne faut pas se voiler la face. Donc, qu'on soit de gauche ou de droite, il faut réconcilier les politiques avec des mesures restrictives en matière d'immigration. Vous savez, moi, j'ai connu Charles Hernu, qui était ministre de la Défense de François Mitterrand, et lui a réconcilié les Françaises et les Français avec l'armée. De même que Gaston Defferre a su réconcilier les Français avec la police, la sécurité. C'est ça, aujourd'hui, qu'on doit faire. C'est-à-dire que, qu'on soit de gauche ou de droite, il y a un certain nombre de thématiques que l'on doit absolument travailler, c'est la sécurité. Je connais bien des grandes agglomérations où il y a des soucis. La sécurité, oui, il faut contrôler l'immigration, sans avoir pour autant des messages racistes ou xénophobes, mais il faut montrer aux Françaises et aux Français, comme dans d'autres citoyens d'autres pays de l'Union européenne, qu'on va véritablement s'occuper des problèmes qui sont les leurs.
Ne pas laisser ces messages aux populistes.
Voilà, de façon, regardez ce qu'est en train de faire M. Retailleau, je ne m'engage pas du tout, mais il a bien compris que si on ne voulait pas que l'extrême droite en France arrive au pouvoir, il fallait aller sur les terres du Rassemblement national, garder son esprit, on va dire, tolérance démocratique, ne pas reprendre les théories racistes du Rassemblement national, mais bien faire comprendre aux électeurs qu'on va véritablement s'occuper du problème, par exemple, de l'immigration illégale.
Bon, il semble aussi que quand on va sur les terres du Rassemblement national, on tend aussi à faire le lit de ces thèses et à populariser ces thèses. En tout cas, c'est très compliqué à combattre. Ce sont des partis qui sont eux-mêmes très forts et assez populaires en ce moment. Et on le voit en France, c'est devenu l'un des premiers partis. Nous en sommes à la fin et on suivra les élections du 1er juin en Pologne, le deuxième tour, qui nous dira si la Pologne réussit, comme la Roumanie, à se prémunir contre la montée de l'extrême droite dans son Parlement. Patrick Martin-Genier, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes enseignant à Sciences Po, spécialiste des questions européennes et auteur de « L'Europe a-t-elle un avenir ?» aux éditions Studirama. Merci beaucoup à vous.
Merci à vous.